5, 4, 3, 2, 1, t'es top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler. Puis début 2013, on lance en force.
Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette Auberge espagnole du mardi 14 mai 2013, au sommaire de laquelle on parlera tout d'abord sport et argent, les trois plus gros clubs sportifs de Montpellier et l'argent, titre d'une enquête dont la synthèse est en accès libre sur le site de Montpellier Journal. Jacques-Olivier Tessier sera avec nous pour en parler. Puis on parlera de ce qui se passe à la Maison de l'Europe avec Edison Thiesch qui nous donnera les rendez-vous de cette semaine pour la fête de l'Europe 2013, des rendez-vous tournés vers la Croatie. The Bamboos, dans cette auberge espagnole qui nous interprète Night Sport. Ils font du sport la nuit, mais il y a aussi du sport le jour et du sport dans cette auberge espagnole. On va en parler. Jacques-Olivier Tessier, bonjour.
Bonjour.
Alors, une enquête dans Montpellier Journal qui a duré plusieurs mois autour du financement des trois plus gros clubs de sport de notre belle ville. Le MHSC, club de foot, le MHRC, club de rugby et le MAHB, club de handball. Comment, tout d'abord, une enquête qui a duré plusieurs mois, comment t'es venu l'idée d'aller travailler ce terrain-là?
En fait, c'est au printemps dernier où finalement les résultats des clubs sportifs de Montpellier étaient plutôt bons. Tout le monde s'extasiait, y compris dans la presse nationale, sur le miracle sportif montpelliérain. Et je me suis dit, il y a peut-être des raisons à ça. Enfin, il y a sans doute que les Montpelliérains sont particulièrement bons, etc. Mais comme souvent on dit, d'ailleurs, je crois qu'il y a un article encore aujourd'hui dans Libération, il me semble, qui parle du PSG et du fric. On sait très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui dans le sport, du moins professionnel. Donc je me suis dit, allons voir un petit peu si finalement ces clubs-là, comment sont aidés et à quelle hauteur sont aidés ces clubs-là. Donc j'ai choisi d'en prendre trois, les trois plus gros, les trois plus connus, voilà, pour des raisons de facilité, on va dire.
Alors une enquête qui a démarré quand, donc tout de suite après, donc,
oui, c'était au mois de mai. J'ai commencé à lancer des demandes de documents administratifs, etc. Après, elle s'est un peu interrompue parce qu'en parallèle de ça, Montpellier Journal est passé à l'abonnement. Donc avant, il était en accès libre, donc ça me prenait un peu du temps. Donc du coup, j'ai repris ça, on va dire, à l'automne, et j'ai vraiment commencé à publier. Je ne sais plus le premier article, d'ailleurs, je ne l'ai plus en tête, mais ça devait être en janvier ou février. Et la synthèse, donc, la publication elle-même s'est étalée sur plusieurs mois, parce que après la publication du premier article, j'ai continué à enquêter. Donc la synthèse, donc un peu qui marque un peu le point final, du moins de cette enquête-là, est parue le 24 avril.
Voilà, la synthèse, elle est en accès libre. Elle revient sur sept volets, finalement, de ce travail. Est-ce qu'au fil de cette enquête, au fil de la publication, donc, y avait des réactions qui infléchissaient le travail de recherche que tu menais ?
Pas vraiment, parce que le gros des réactions, je les avais recueillies avant, parce que je me doutais bien qu'une fois que je commencerais à publier, ça serait un peu plus compliqué après pour que les gens s'expriment, ce qui s'est avéré à peu près exact. Donc voilà, mais ceci dit, j'avais finalement accumulé une matière pour donner un peu, enfin tenter de donner la position de tout le monde. Je voulais revenir aussi sur un point, c'est que tout à l'heure tu as parlé des clubs sportifs et de l'argent, c'est bien d'argent public dont il s'agit, hein, parce que évidemment, moi j'ai pas travaillé sur, même si c'est abordé parfois au détour d'une phrase ou autre, mais comment les clubs se financent par ailleurs, avec des partenaires privés, avec par exemple au foot, quelque chose qui est très important, c'est les transferts des joueurs. Voilà, moi il y a aussi les droits télé évidemment pour le foot qui sont colossaux. En particulier là, le MHSC, donc le foot, a touché d'importants droits suite à leur titre de champion de France et à leur participation à la Ligue des Champions. Voilà, moi je me suis intéressé justement à la partie argent public, donc le financement essentiellement des collectivités locales de ces trois clubs.
Alors, en guise d'introduction, il y avait une phrase de Bertrand Delanoë qui disait en novembre dernier, le maintien d'une subvention municipale au PSG n'est ni nécessaire ni opportun dans un contexte de rigueur budgétaire. PSG qui tourne avec 300 millions d'euros, ce qui paraît complètement effarant. Donc tu dis, bon, on est loin de cette situation à Montpellier où le MHSC tourne avec 60, mais quand même, c'est quand même pas 60 000 euros ou 600 000 euros ou 6 millions d'euros, c'est quand même 60 millions d'euros. Donc c'est vrai que bon, ça. Qu'est-ce qui distingue justement, on va dire, la situation du PSG et puis la situation à Montpellier?
Finalement, ce facteur 5, oui. Essentiellement. Et puis, voilà, il y a aussi, il faut préciser aussi que les 60 millions, c'était un peu un pic, puisqu'ils sont liés au titre de champion de France. Mm-hmm. Et donc, c'est le budget de la saison 2012-2013. Celle d'avant, c'était sans doute la moitié. Donc, le budget avec lequel ils ont été champions de France, c'est plutôt 30 millions d'euros. Et celui de l'an prochain, compte tenu des résultats de cette année, sera sans doute aussi divisé par deux. Donc là, on est même carrément éventuellement dans un facteur 10. Quoi. Mm-hmm. Mais moi, ce qui m'a un peu frappé, et ce qui, visiblement, apparemment, je suis quasiment le seul que ça frappe, c'est de voir que finalement ce club a vu des dizaines de millions d'euros qui ont été, qu'il a gagné, certes, il n'y a pas de problème là-dessus, mais à Paris, on se pose la question d'arrêter de donner de l'argent public à un club qui est finalement très riche du fait des investisseurs qataris. À Montpellier, le club qui, du jour au lendemain, double son budget, passe à 60 millions d'euros, on continue à l'aider à la même hauteur, quoi, avec des prétextes. Alors, il y a des aides directes et indirectes, on peut en parler, mais voilà, il n'y a pas, visiblement, je n'ai pas vu de débat pour dire est-ce qu'il faut ne serait-ce que réduire un peu les aides publiques, puisque finalement, le club se porte bien, et voilà. C'est Louis Nicolin qui l'a dit encore il n'y a pas très longtemps à la télé, avec la Ligue des Champions, ou à la radio, je ne sais plus, avec la Ligue des Champions, on s'est gavé, c'est le terme qu'il a employé. Il a même fait, il est revenu encore une autre fois là-dessus à la télé, en faisant le geste un peu du joueur de roulette au casino qui en poche et qui dit ouh la Ligue des Champions, il a dit aïe, sous-entendu ça m'a rapporté gros, quoi. Voilà.
Donc voilà, que ce soit le maintien de ces aides ou la nature de ces aides directes ou indirectes qui sont discutables, notamment en termes de redevances, puisque tu soulignes dans la deuxième partie de cette enquête le fait que y a des investissements publics très importants qui sont consentis par les collectivités pour construire les infrastructures. Alors on parle évidemment des stades de foot, Mausson, Yves du Manoir, pour le rugby, etc. Et puis derrière, même si les clubs, les utilisateurs de ces lieux payent une redevance, elle reste quand même presque symbolique, c'est ça ?
Oui, oui, parce que donc, je donne quelques chiffres. Le stade de la Mausson, alors on ne parle pas de la construction, on parle des travaux qui ont été faits les 20 dernières années, puisque la construction remonte à avant. Les 20 dernières années, les collectivités ont dépensé 70 millions d'euros, donc rien qu'en investissement. Il y a aussi à la charge de la collectivité tout ce qui est frais de fonctionnement. Par exemple, la pelouse, dont on a beaucoup parlé cet hiver, la pelouse, c'est 500 millions d'euros qui ont été dépensés en 2 ans. Voilà. Et quand on regarde la redevance que paye le MHSC pour l'utilisation de ce stade, alors qui certes n'est pas permanente, ça c'est un débat aussi, parce qu'on considère qu'en gros on l'utilise que 20%, alors qu'il y a quasiment qu'eux qui jouent là-bas. Bon, il y a eu un match de rugby il n'y a pas longtemps, mais voilà, il y a un ou deux matchs hors foot et le reste c'est du foot. Et d'ailleurs, quand on voit que la pelouse a du mal à tenir avec rien que quasiment les matchs de foot, on imagine si tous les week-ends il y avait un match de quelle compétition qu'il soit, quoi. Donc, et en parallèle de ça, donc de ces dizaines de millions d'euros d'investissement, de ces centaines de milliers d'euros de frais de fonctionnement, voire plus par an, on a une redevance, j'ai plus le chiffre exact, si voilà, 271 000 euros de redevance. J'ai appris, après l'apparition de ces articles-là, tout récemment, que pour le stade Vélodrome, l'OM était à 1,5 million de redevances. Et alors, là aussi, il y a des travaux qui ont été faits, bon, avec un montage différent qu'à Montpellier, avec, je crois, du privé impliqué et tout ça. Mais quand même, le nouveau loyer évoqué, bon, qui a fait apparemment bondir les dirigeants de l'OM, c'est 7,5 millions d'euros par an. Donc, à rapporter aux 270 000 euros du stade de la Mausson. Alors évidemment, à nouveau, le MHSC, c'est pas l'OM, le Vélodrome, c'est pas le stade de la Mausson. En gros, le Vélodrome, c'est deux fois plus gros que la Mausson. Mais enfin, voilà, on est aujourd'hui, ça c'est 1,5 million de redevances pour l'OM, avec un stade deux fois plus grand, donc on pourrait dire 700 000 euros pour le stade de la Mausson. Bon, alors on va me dire, ah oui, mais il est moins rempli et tout et ça, mais enfin, on divise encore par deux, mais on est quand même au-dessus, quoi. Donc,
Alors tout ça a rapproché aussi, on va dire, de la question dans la quatrième partie où tu disais, la question est posée, Mandrou a-t-elle bradé Gramont à Nicolin ? Le domaine 10,7 hectares, 1400 m² de vestiaire, 4000 m² de parking, 2300 m² de locaux, le tout vendu à un prix de 6,5 millions d'euros, à peu près celui préconisé par France Domaine, mais on va dire c'est un minimum. Alors est-ce que finalement, on n'est pas dans une situation où finalement les élus, ils ont toujours quelque part envie de faire plaisir à leur champion, peut-être aussi pour garder un contact, pour aussi l'image politique qu'ils veulent donner, c'est un peu entre le narcissisme et l'électoralisme.
Alors, il y a la version officielle qui est, voilà, le sport, c'est un formidable vecteur de cohésion sociale, de tout ce qu'on veut, d'exemplarité, tout ça. Bon, on peut en discuter avec l'affaire des Paris, par exemple, oui. Les Paris suspects au Hand, même si tout ça est toujours en cours au niveau judiciaire, même s'il y en a quand même qui ont reconnu avoir parié contre leur équipe. Mais oui, bien sûr, la vraie question, c'est ça, c'est... Le sport, c'est un moyen de... On l'a bien vu quand, avec le titre de champion, là, ça a été le paroxysme. On a vu, effectivement, Mandrou, le maire de Montpellier, donc Jean-Pierre Hamon, le président d'Aglo, se pousser un peu du coude pour être sur la photo avec Louis Nicolin et les joueurs, donc ça, lors de la remise du trophée de champion de France sur la Comédie. Il y a aussi donc être vu au stade donc par les supporters sur les caméras de télé, etc. Faire partie, enfin être aussi dans les loges qui sont payées par les collectivités, on pourra en reparler. Donc avec on va dire les notables de la ville officiellement pour favoriser les bonnes relations entre les élus et on va dire les milieux économiques par exemple. Mais bon, c'est tout ça. Au minimum mérite débat. Il y a d'ailleurs eu du débat pour le coup en conseil municipal, mais bon, ça n'a pas fait plus de bruit que ça. Et effectivement, on sent bien que on peut difficilement s'attaquer à, par exemple, quelqu'un comme Louis Nicolin, qui est très connu, très populaire et assez, je ne sais pas, quel est, aux 15 000 ou plus supporters de son club.
Alors, on va dire, c'est une envie de plaire et puis d'aider et puis de s'attirer la sympathie du milieu sportif qui va des fois au-delà, on va dire, des règlements, puisque là, notamment, on peut lire que le plafond légal d'achat de prestations fixé par la loi a été dépassé en 2012-2013 de 100 000 euros. Alors, 100 000 euros, ça peut paraître finalement assez peu important, mais c'est peut-être aussi une question de transparence et de respect des règles des règles comptables.
Oui, et puis visiblement ça n'a ému personne. Voilà, c'est 100 000 euros. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations, par exemple à Montpellier, qui aimeraient bien bénéficier de ça. Et puis en plus là, il s'agit même plus de choix politiques. On dit on met plus là et moins là. Non, il s'agit de respecter la loi. Ils ont dépassé la loi de 100 000 euros. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai montré. Et il n'y a eu aucune réaction des collectivités concernées, de la préfecture qui est censée aussi contrôler la légalité des décisions qui sont prises. Voilà, et des opposants ou autres. Je suis sidéré dans cette ville de l'apathie des contribuables, par exemple, ou autres. À Lyon, il y a une association qui attaque quasiment toutes les décisions, c'est peut-être là exagéré, mais toutes les décisions des collectivités vis-à-vis de l'Olympique Lyonnais. Parce que donc c'est comme ça, justement, qu'eux, ils ont un peu fait jurisprudence. Et justement, ils ont attaqué la délibération de fixation de la redevance du stade Gerland pour l'Olympique Lyonnais, qui était trop basse. Et donc, effectivement, ils ont eu gain de cause à Montpellier. Il n'y a eu aucune réaction. Mais à nouveau, c'est peut-être pareil. Quand on est même dans l'opposition ou, je sais pas, ou dans d'autres milieux, on n'a peut-être pas forcément envie de s'en prendre au sport, voilà, et à des gens puissants. Hein. Louis Nicolin, on sait, c'est quand même quelqu'un de très riche. Moed Altrad pour le rugby aussi. Bon, le hand, c'est un peu différent. Mais bon, c'est pareil. Peut-on s'en prendre à un club et à ses supporters sans risquer de perdre beaucoup de voix, quoi. Sur l'illégalité, il y a aussi quelque chose qui est passé relativement inaperçu. Et là, ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, c'est la Chambre régionale des comptes. C'est quand même pas rien qui dit que le club de handball professionnel a bénéficié gratuitement de la mise à disposition de Bougnol. Moi, selon ce qu'ils payent, donc ce n'est pas selon ce qu'ils devraient payer, c'est selon ce qu'ils payent réellement. C'est un cadeau de 300 000 euros donc sur plusieurs années. Mais enfin voilà, ça aussi, c'est clairement illégal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. Mmh. Voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Moi, je n'ai pas vu d'article de presse à l'époque pointant ça. C'est en faisant mon enquête que j'ai retrouvé ça. Quoi.
Mmh. Et dans cette enquête, alors outre le revenu de certains joueurs pris en charge par les collectivités, qui déjà peut poser question, moi, ce qui m'a vraiment surpris finalement, c'est aussi le droit à l'image racheté par la ville de Montpellier pour certains joueurs. Alors jusqu'à présent, il n'y avait que les chaînes de télévision qui allait sortir des millions pour acheter le droit à l'image de tel ou tel people. Est-ce que dans cette société tout communicante, on ne se retrouve pas avec des comportements un peu paradoxaux où une collectivité finalement va acheter le droit à l'image d'un sportif fort cher d'ailleurs. Là aussi, ça pose question d'un mélange des genres peut-être.
En fait, c'est... La question, enfin moi, ce qui est apparu, c'est quand même, c'est d'ailleurs le Jacques Martin, le vice-président de l'Aglo en charge des sports, qui me le dit. Hein, il reconnaît quasiment explicitement que le droit à l'image, c'est une façon déguisée d'aider à nouveau le club de rugby. C'est-à-dire qu'on prend en charge 240 000 euros par an pour Fabien Galthié, l'entraîneur. On fait passer ça en droit à l'image. Bon, effectivement, il y a quelques prestations. Alors là, je ne sais pas si c'était prévu ou pas, mais coïncidence, on a vu là tout récemment dans la presse une publicité pour inciter les gens à trier leurs déchets avec donc Fabien Galthié et puis les deux autres joueurs du club de rugby qui sont Trinduc et Bouedraogo qui ont fait de la pub donc là dans le cadre j'imagine de leur contrat de droit à l'image donc bon mais quand même 240 000 euros par an pour Galthié et à peu près la moitié chacun pour Trinduc donc on est en gros sur quelque chose qui représente 500 000 euros par an rien que pour le rugby, rien que pour ces trois sportifs-là, pour l'agglomération. Et après, évidemment, viennent s'ajouter les autres aides. Donc, si on fait le total de toutes ces aides-là, directes et indirectes, on dépasse très très largement, pour ces trois clubs uniquement, évidemment, hein, on dépasse très largement, à mon avis, les 15 millions d'euros. Mmh.
Jacques-Olivier, une enquête qui, j'imagine, aura peut-être des suites. Le temps que les gens se disent, tiens, je vais aller quand même lire ça. C'est l'occasion aussi de s'abonner à Montpellier Journal, hein, puisque l'intégralité du dossier, elle, est en partie abonnée. Mais la synthèse, elle, est en accès libre.
Ouais. Oui, il y a sûrement une. Il y en a une là hier. J'ai fait un petit papier assez rapide juste pour poser des questions parce que là c'était sur le MHB et un joueur serbe qui était arrivé donc en pleine affaire des paris parce que effectivement le MHB manquait de pivot donc parce qu'il y avait l'histoire des paris, il y avait des joueurs qui étaient interdits ou qui allaient quitter le club et donc il manquait de joueurs à ce poste. Ils font venir un Serbe qui s'appelle Uros Viloski. En début novembre, Midi Libre dit qu'il s'entraîne avec le club, qu'il fait même un déplacement à Belgrade. Et officiellement, rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils attendent un accord de la Ligue nationale de handball pour le recruter. Et cet accord-là, et c'est le MHB qui le dit lui-même, n'intervient que le 1er février, ou mettons le 31 janvier, comme par hasard, juste après le départ de Karabatic. Donc moi, la question que je pose, c'est ce mec-là, il faisait quoi pendant les 4 mois. Il était à Montpellier, il vivait de quoi. Qui c'est qui le payait. Voilà, il y a des gens qui disent, ah, mais il y a peut-être des moyens de s'arranger en attendant d'avoir l'accord de la Ligue nationale de handball. Voilà, et ça pourrait être. J'ai une source qui me dit, oh, ben, il y a toujours moyen de s'arranger. Peut-être que c'était l'association qui le payait. Bon, le MHB n'a pas confirmé, mais au minimum, la question se pose. Est-ce que, alors, on peut dire, bon, c'est pas grave, c'est des montages, mais non, parce que l'association, c'est le sport amateur. Et donc, ça voudrait dire qu'il y aurait eu des transferts d'argent entre la structure amateur et la structure professionnelle, ce qui peut poser un problème. Enfin, en tout cas, au minimum, dans cette affaire, c'est complètement obscur. C'est pour ça que j'ai titré le joueur fantôme, parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Quoi. Bon, c'est pas à la hauteur des choses dont on vient de parler, mais quand même, c'est significatif de pratiques qui sont pour le moins peu transparentes, alors que, comme on l'a vu, l'argent public investi là-dedans est important et on pourrait espérer un minimum de transparence.
Le Serbe Uros Viloski, joueur fantôme pendant 3 mois, c'est à la une de Montpellier-journal.fr. Jacques-Olivier Tessier, merci beaucoup d'être venu dans les studios de Divergence. On va se quitter avec encore un petit morceau qui parle de sport, ou plutôt non, ce n'est pas du sport, c'est un art martial et c'est Jim O'Rourke. No Sport Martial Art, c'est Jim O'Rourke sur les ondes de Divergence FM dans cette auberge espagnole où à présent on va parler Europe et nous recevons un des animateurs de la Maison de l'Europe, Edison Thiesch. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, bien, qu'est-ce qui se passe cette semaine et on va dire, il se passe depuis le mois d'avril, diverses choses dans le Gard et dans l'Hérault. Plus près de nous, dans le temps, on peut voir jusqu'au vendredi 24 mai une exposition intitulée « Pour comprendre l'Europe », une exposition qui se trouve à Castelnau-le-Lez. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Nous avons donc cette exposition à Castelnau-le-Lez. Mais nous avons aussi beaucoup, nous avons donc des événements sur nos points Europe, que ce soit à Castelnau-le-Lez, que ce soit aussi à Saint-Jean-de-Serre, où nous avons aussi une exposition de peinture, un repas, mais plus particulièrement sur Montpellier, puisque c'est cela qui est aussi intéressant, trois grands moments forts. Notamment, du lundi 13 au vendredi 17 mai, une exposition instantanée de Croatie. Donc la Croatie vue par des photographes français, nous à la Maison des Relations Internationales. Ce 14 mai, nous avons la Croatie aux portes de l'Europe, avec la venue donc de l'ambassadeur de Croatie, Monsieur Ivo Goldstein, qui va donc faire une conférence sur l'entrée de la Croatie en Europe, cela voilà, pour le 14 mai.
C'est aujourd'hui de 17h30 à 20h30.
Tout
donc pour ceux qui écoutent la rediffusion, eh bien, il faudra qu'ils se hâtent d'aller à la Maison des Relations Internationales où se déroule ce rendez-vous. La Croatie donc, qui est à l'honneur, puisqu'elle est, elle est sur le point d'entrer au sein de l'Union Européenne, c'est bien ça ?
Tout à fait, qui est à l'honneur ce 14 mai. Ensuite, demain mercredi 15 mai, nous avons donc la fête des cultures européennes qui se passe sur deux jours, donc mercredi 15 à la Maison des Relations Internationales. Nous avons un certain nombre d'événements organisés avec les associations européennes que l'on remercie pour leur investissement, qui proposent donc des danses, des balades, de la poésie, des animations. Mercredi 15 à la Maison des Relations Internationales. Et surtout le samedi 18 mai à la salle Pétrarque où nous avons donc des expositions, de la danse, des concerts et un certain nombre d'événements proposés par la Maison de l'Europe et toutes ses associations.
Entre autres aussi, il y aura, pour ceux qui sont au centre-ville, il y aura à la maison de Heidelberg, il y aura des animations durant toute la journée aussi autour des 50 ans du traité de l'Elysée. Ce sera donc le 18 de 14 à 17h. Il y aura aussi la diffusion d'un film et un débat par l'association Club Franco-Polonais Solidarnosc sur l'histoire du mouvement du même nom en Pologne. Ce sera de 10h15 à midi à la maison des relations internationales aussi. Des animations, une visite du Collège des Écossais par l'association France-Écosse, quartier des Quatre Seigneurs à Montpellier, pour ceux qui ignoraient qu'il y avait un Collège des Écossais, parce qu'on ne le sait pas forcément. Et puis samedi aussi, un concert par la chorale de Boves-Quegno en Italie, ce sera à l'église Saint-Jacques, ce sera à Moggio, donc finalement des rendez-vous qui ne sont pas que à Montpellier. Samedi 18 mai aussi, sur les traces de Jacques Ier d'Aragon, ça se passera, ce sera une visite, une balade découverte dans Montpellier sur les traces de ce personnage qui a marqué l'histoire de la ville de 9h30 à 10h30. Beaucoup de rendez-vous qu'on peut retrouver sur le site europelr.eu.
Oui, tout à fait, sur le site de la Maison de l'Europe, Europe Direct à Montpellier. Vous pouvez venir nombreux et nombreux. Nous vous invitons à célébrer l'Europe et à venir dans la convivialité, donc partager des moments qui sont toujours très intéressants.
Et puis pour terminer, le 29 mai, ce sera la journée des langues, langues et citoyenneté européenne. Toute la journée, des stands d'information, une exposition, atelier pour faire la promotion de la diversité linguistique de la citoyenneté européenne. Ça se passera au CRDP à Montpellier. Je crois que nous avons à peu près fait le tour des festivités.
Oui, oui, en région, nous avons beaucoup de festivités, beaucoup d'animations et surtout beaucoup de personnes qui se mobilisent, beaucoup d'associations qui travaillent avec nous et que l'on remercie aussi pour leur investissement, pour fêter l'Europe. Voilà, c'est quelque chose de très bien.
Comme il se doit, Edison Thiège, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes ces infos sur www.europelr.eu et on part avec le No Smoking Orchestra qui nous interprète, Europe.
Ciao Ralen, c'eri masco tem Cai trailo David Beckham nevo detergent Benvenuti, ciao Ralen, c'eri masco tem Cote otem budbach talo sardo per reclame Naestuce Europa, sanse democrati Naestuce pure dai a Palofox da MTV